Ce soir, on continue l'Épître de Jacques, l'étude dans l'Épître de Jacques. On est rendu au chapitre 2, un petit peu plus loin à partir du verset 14. On va finir le chapitre ce soir. Puis on va voir ça tombe bien parce que ça complète ce que j'ai mentionné dimanche. Puis c'est pas un hasard. Dieu contrôle toute chose. C'est lui qu'on fait l'étude comme qu'elle vient. Puis ça tombe sur un sujet qui est semblable à celle de dimanche. Puis c'est important de comprendre, parce que je suis sûr que vous comprenez déjà, mais le fait de le ramener, ça grave ça dans notre pensée. Parce que même si ça fait 35 ans que je suis chrétien, j'ai parcouru plusieurs églises, puis j'en ai trouvé plusieurs églises qui n'ont pas encore compris ce qui est écrit là, même s'ils ont fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur. Jacques, dans à partir du chapitre 2, le verset 14 à 18. Le titre, c'est « Les deux sortes de foi sont révélées dans la Bible. » Il y a deux sortes de foi qui sont révélées dans la Bible. Il faut comprendre que deux sortes de foi dans l'Église, pas dans le monde de la foi, dans n'importe quoi, ça y en a beaucoup dans le monde, mais dans l'Église. Est-ce qu'une simple croyance en Jésus peut nous sauver? Juste le fait de croire. Ah, oh, je le crie qui existe. Hein?
Les démons aussi le croient.
Oui. C'est dans Jacques qui en parle, puis on va le lire à soir, ce passage-là. Nous allons voir que la Bible nous parle de deux sortes de foi. Il y a celle qui sauve, puis il y a celle qui sert à rien. Tu peux avoir la foi qui sauve, mais tu peux avoir aussi une foi qui sert à rien. Puis Jacques, qui a écrit ces passages-là, c'est ceux qui étaient conscients de ce qui se passait à ceux à qui la lettre était adressée. Puis ce même problème-là existe encore aujourd'hui. Dans Jacques 2, à partir du verset 14, il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez et vous rassasiez, et que vous leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Il en est ainsi de la foi. Ça n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, puis il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et dit Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques, il prend le temps d'expliquer avec plusieurs versets ce thème-là qui est de la foi, parce qu'il y en a qui disaient qu'il y avait la foi, mais il n'y avait pas les œuvres. Puis là, Jacques, en étant conscient de ça, leur a écrit pour leur expliquer cette vérité-là, qu'il y en a qui ont la foi sans les œuvres, mais ça, c'est une foi qui est vaine, qui sert à rien. Il faut avoir la foi démontrée par nos œuvres. Jacques, dans son explication, il nous pose une question. Il commence par poser une question au verset 14. Il dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? » Là, ici, on sait sûr que quand on parle de dire qu'on a la foi, ça, c'est depuis le début de la création. C'est pas juste depuis le temps de Jésus. C'est depuis le début de la création. que les gens sont sauvés par la foi. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est de même, même dans l'Ancien Testament. Dans la Genèse, en parlant d'Abraham, il en a parlé, Abraham eut confiance en l'Éternel, ça c'est dans Genèse, le chapitre 15, le verset 6, c'est au début de la création. Abraham, il a eu confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Ça veut dire qu'à cause qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel, il a entendu la voix de Dieu qui a dit « Quitte ton pays, puis va par la foi, quitte ta famille, va-t'en, puis je vais te montrer un pays que je vais donner tout ce territoire-là à ta descendance. » Abraham, il a cru, il a mis sa confiance, il a tout quitté, il est parti pour obéir à la voix de Dieu. Puis à cause de ça, ça nous dit qu'Abraham a été déclaré juste par Dieu. Dieu, il s'est dit, et cela lui fut imputé, Dieu lui imputa la justice. Il a déclaré juste. Imputé, ça veut dire qu'il lui a donné. Dans Jacques, le même dans les versets qu'on vient de lire, il répète ça. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, puis il fut appelé ami de Dieu. Fait que quand tu décides, t'es croyant, là, tu crois, puis tu décides de faire confiance à Dieu, c'est une chose, mais il n'a pas juste fait confiance, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, c'est qu'il a été. Il a décidé d'y aller. Il a décidé, pas juste de l'écouter, il a décidé d'obéir. Il a décidé d'agir, de passer aux actes. Il a été, puis il a été visité, puis Dieu lui a montré, puis il a donné d'autres promesses, parce qu'Abraham, il n'avait pas d'enfant encore. Hein? Puis il était rendu peut-être à 85 ans quand il a eu cet appel-là, puis il est allé, puis là, il a dit qu'il était pour avoir un enfant. Et en tout cas, il a dans 80 ans, puis il est parti par la foi, puis il n'a pas d'enfant, puis Dieu a dit, « M'a donné un territoire, puis tu vas voir ce territoire-là, je vais te faire marcher dans ce territoire-là, puis ça va être pour tes descendants. » Fait que lui, c'était comme une double promesse, là. Dieu est en train d'y promettre aussi qu'il était pour avoir des enfants. Il était rendu à âgé, puis on le sait dans l'histoire qu'il a eu son enfant à 99 ans. Fait que ça lui a pris 15-20 ans avant que la promesse s'accomplisse. Mais il a gardé la confiance en Dieu. Puis il a été visiter le pays, même si ça n'avait pas de sens, il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a promis que ça... Dieu lui a montré le terrain avant de lui donner l'enfant. C'est assez fort. Déjà, s'il aurait pu arriver, dire, tu vois, là, tu as un enfant. À cette heure, je vais te montrer ce que je vais donner à ton enfant. Mais là, il n'avait même pas. Il était même pas en âge d'en avoir. Puis Dieu lui a dit, je vais te montrer le terrain que je vais donner à tes enfants. Puis il n'avait pas. Fait que là, lui, il a cru, il a fait confiance, puis il a été. Puis il a eu plusieurs moments où il a été mis à l'épreuve. Puis à chaque fois, Abraham, il a obéi, il a fait ce que Dieu lui demandait. Fait que l'histoire d'être sauvé par la foi, ça n'a pas commencé dans le temps de Jésus, même dans la Genèse. C'est ceux qui avaient la foi qui étaient sauvés. Après Abraham, il a eu ses enfants. 400 ans plus tard, ses enfants sont sortis de l'esclavage d'Égypte. Ses descendants sont sortis de l'esclavage d'Égypte. La loi de Moïse est venue 430 ans plus tard. C'est là que le plan de Dieu de dire « Vous allez être sauvés en pratiquant la loi », ça a été donné aux Juifs, mais à quelque part, ça a été mentionné que les gens devaient pratiquer toute la loi pour être sauvés. Mais en fin de compte, cette loi-là qui était donnée, ça ne sauvait pas vraiment parce que personne qui a pu être justifié en pratiquant cette loi-là. Fait que la manière d'être sauvé d'Abraham a toujours été valable. C'est ceux qui marchaient par la foi qui pouvaient être agréables à Dieu et qui pouvaient être sauvés. Ça a commencé à Abraham, puis Abraham, il était le père d'une multitude de nations. Ces multitudes de nations-là, c'est ceux qui ont marché sur les traces d'Abraham. C'est ceux qui ont marché par la foi. Voyez-vous, il y a deux lignées, autrement dit, dans la descendance d'Abraham. Il y a ceux de ses descendants directs de père en fils qui ont reçu la terre promise, puis il y a ceux qui ont marché par la foi, qui ont pour père Abraham, qui ont marché sur les traces d'Abraham, qui sont devenus les descendants en Jésus. Parce que Jésus est un fils d'Abraham, puis c'est par la foi en Jésus que le salut est devenu accessible, puis qu'on peut marcher par la foi sur les traces d'Abraham. Fait que l'idée d'être sauvé par la foi, c'est depuis le début de la création. Mais ce soir, on débat pas sur est-ce qu'on est sauvé par la foi ou par les œuvres. C'est clair que les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Ceux qui ont essayé de prendre la loi puis de mettre en pratique la loi pour être sauvés, ils n'ont pas pu être sauvés. Parce que c'était pas la loi qui était pour les sauver, c'était leur foi. C'est ceux qui marchaient par la foi qui étaient sauvés. Même dans le temps de l'Ancien Testament. Puis là, ce qu'il faut démêler, c'est quel genre de foi que ça prend. Parce qu'il y a la foi passive, la foi qui... j'ai cru en Dieu, je le crois en Jésus, mais il donne pas sa vie, puis il marche pas avec le Seigneur. Fait que il y a cette foi-là, puis là, il y en a qui pensent que c'est suffisant. Puis il y a la foi, comme Abraham, de marcher dans des œuvres qui étaient d'obéir à Dieu. Puis sa foi était démontrée par ses œuvres. Jacques nous explique que juste penser ou avoir une bonne volonté, ce n'est pas suffisant. Tu peux l'avoir, la bonne volonté. « Moi, je voudrais sauver tout le monde. » Tu as la volonté, là. Tu veux sauver tout le monde. Ou tu as la foi que Dieu va sauver tout le monde, mais si tu ne vas pas évangéliser, il ne se passera rien. Ça prend, faut passer aux actes. Il faut aller plus loin que juste espérer. On a le droit d'espérer, on a le droit de prier, puis il faut le faire. Mais il faut aussi passer aux actes. Par des œuvres, aller évangéliser comme, parce que la Bible le dit dans le Nouveau Testament. Il dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment est-ce qu'il va y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Fait qu'il faut en envoyer des prédicateurs. Puis ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dans Jacques, il dit, pour nous expliquer que ça c'est pas suffisant de juste penser ou avoir la volonté de quelque chose, c'est pas suffisant. Il dit un exemple dans Jacques 2,15. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus, ils ont froid, là, ils sont nus, puis ils manquent de nourriture de chaque jour, ça veut dire qu'ils mangent même pas assez pour se nourrir, puis que l'un d'entre nous, qu'on le voit, qu'on lui dit, va te chauffer, tu vas geler, puis ou bien va manger, t'as faim. Mais là, ils n'ont pas ce qu'ils ont besoin. Puis si tu le donnes pas, à quoi ça va servir que tu es en train de le dire? Ça sert à rien. Si tu vois qu'ils ont rien à manger et qu'ils ont rien sur le dos, c'est pas suffisant juste de leur dire « Allez vous habiller et allez vous nourrir. » Faut que tu leur donnes de quoi s'habiller, faut que tu leur donnes de quoi manger. Là, ils vont le faire. Mais c'est un peu pareil, la foi sans les œuvres. C'est comme tu sais la chose, mais tu fais rien pour l'arranger. La vraie foi que Dieu nous demande, c'est une foi qui passe aux actes. On démontre notre foi par nos actions. Puis Jacques, dans son verset, lui, il est catégorique. Dans Jacques 2,17, il dit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. » La foi qui n'a pas d'œuvres, c'est une foi qui est morte. C'est une foi qui sert à rien. On va le voir dans d'autres passages. Dieu veut qu'on réalise que la foi qui sauve, c'est une foi qui a fait des actes, qui a passé aux actes. Si Dieu, il parlait par Pierre, puis il y a 3000 personnes, puis il leur dit, repentez-vous, et vous recevrez le pardon de vos péchés, puis là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Fait que, pour que les gens reçoivent la promesse, fallait qu'ils passent aux actes. Pour recevoir la promesse d'être pardonné, puis la promesse de recevoir le Saint-Esprit, il fallait qu'il passe aux actes. Quel était l'acte qu'il devait faire pour le recevoir? Il leur a dit, repentez-vous. Fait que s'il leur a dit, repentez-vous, puis là, vous allez recevoir le pardon, puis vous allez recevoir le Saint-Esprit, si les gens ne passent pas aux actes en ayant une foi qui se repent, qui veut changer, leur vie, puis qui veulent obéir au Seigneur, s'ils n'ont pas ça, mais ils ne seront pas pardonnés, puis ils ne recevront pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, la foi doit être des actions. Pas juste, ah, oh, je l'ai entendu, je pourrais être pardonné par Jésus. J'y crois! Là, ils s'en retournent chez eux, puis ils passent pas aux actes, puis ils s'en vont continuer qu'est-ce qu'ils vivaient avant. Y a-tu passé aux actes? Ça a-tu servi de quoi de croire qu'ils pouvaient être sauvés par Jésus? Il a cru, mais il a pas passé aux actes. Fait qu'il est retourné chez eux, puis il fait encore la même affaire qu'il faisait avant d'arriver. Sa vie n'a pas changé, il n'a pas été pardonné, puis il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Tous les chrétiens doivent être enseignés d'avoir la foi démontrée par des œuvres. Amen. Faut revenir là-dessus parce que des fois, on se laisse aller, on s'assit. Ah, ben moi, j'ai accepté Jésus en 1980. Puis là, tu passes 30 ans plus tard, le gars est encore assis le dimanche à la même chaise, puis il n'y a rien qui a changé dans sa vie. Il a pas trouvé encore là où ce qu'il doit servir Dieu, puis il n'y a rien qui change dans sa vie. Puis il se pose pas de questions, il y a quelque chose qui est pas normal. À quelque part, il faut trouver notre position. On a un appel, Dieu nous appelle, on a des tâches à faire. Prier, ça en est une. Se nourrir spirituellement, garder la vision, puis être frais dans notre esprit sur la pensée de Dieu, ça c'est important. Être rempli du Saint-Esprit, parler de Jésus, être dans l'Église. Soit qu'en tout dépendant de nos dons, nos capacités, on peut parler aux autres, on peut communiquer, on peut aider, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, on peut s'impliquer dans l'école du dimanche, on peut s'impliquer dans la musique, dans la louange, on peut s'impliquer à l'accueil, on peut s'impliquer de toutes sortes de manières, mais il faut trouver notre place dans le Seigneur pour servir le Seigneur avec les dons et les talents qu'il nous a donnés, puis en plus de ça, si on est fidèle dans les petites choses qu'il nous demande, il va nous en confier davantage. On va prendre l'exemple de Jésus dans Jean au chapitre 10, le verset 25. Écoutez bien ce que Jésus dit. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Est-ce que Jésus, c'était juste du verbal qu'il faisait?
Non.
Partout où ce qu'il passait, il bouleversait des vies. Il changeait des vies. Il priait pour des malades, priait, chassait les démons, il prêchait la bonne nouvelle, les gens se repentaient, les gens changeaient de vie. Il y a des gens qui le suivaient, il enseignait ses disciples, puis il faisait du bien physiquement, il a nourri des foules, il a fait toutes sortes d'affaires pour aider. Il dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Fait qu'un chrétien, quand il est en train de s'investir en tant que chrétien, puis il sert dans l'Église, puis il sert aussi le Seigneur dans le monde, en évangélisant, en parlant du Seigneur, en s'impliquant dans des organismes communautaires, en faisant des choses dans l'œuvre, ils parlent, leur témoignage parle, leur vie parle, leur action, leurs œuvres parlent. Leur action démontre leur foi. Fait que c'est pas juste d'avoir la croyance en Jésus. Des chrétiens sont appelés à passer aux actes, dans des œuvres. Puis c'est là qu'ils parlent encore plus fort que juste par leur bouche. En action, l'amour est en pratique. Dans Jean 14, verset 12, Jésus a encore dit quelque chose, mais pour nous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, puis en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Puis tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous le donnera. Voyez-vous, il dit, ceux qui vont croire en moi, ça sera pas juste une croyance. Ceux qui croient en moi, ils vont faire des œuvres, les mêmes œuvres que je fais. C'est ça qu'il dit. Fera aussi les œuvres que je fais. Fait que Jésus, il passe aux actes, sa foi était démontrée par ses œuvres. Puis il dit, ceux qui croient en Jésus, ils vont faire les mêmes œuvres que Jésus. Puis même, ils vont en faire des plus grandes. Jésus lui a œuvré que 3 ans sur la terre en tant que Messie. Il a vécu 33 ans, mais son ministère était que de 3 ans. Guérir les malades, chasser les démons. Il en a fait des affaires, mais il a dit que tous ses disciples croient en lui vont tous faire la même chose que lui. Puis il dit en plus de ça, ils vont en faire des plus grandes œuvres. Des choses que Jésus a jamais faites ou ce que Jésus a jamais été. Mais ça prend des gens qui croient puis qui veulent vivre leur foi. Si on veut se lancer, bien, le Seigneur, il dit qu'il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique. C'est ça qu'il nous dit. Ces œuvres-là sont déjà préparées. Fait que chacun de vous, puis moi aussi, faut être dans les œuvres que Dieu a préparées. Dieu a préparé des choses que je dois faire. Il faut les trouver, ces œuvres-là. Puis Dieu... Non seulement il les a mis devant vous, mais il va vous donner la force pour les accomplir. Il va vous donner les talents qu'il faut. Il va vous équiper. Il va vous ouvrir des portes. Puis vous allez voir, vous allez faire des choses. Puis vous allez glorifier Dieu en action avec les œuvres que vous allez faire. C'est ce qu'on veut. Il faut combattre la fausse pensée des gens qui demeurent au stade de seulement croire. Parce que ça peut nous arriver à nous aussi, qu'on s'assit, « Oh, je le crée, je le crois que Jésus, c'est le Sauveur. » On reste assis, puis je le crois. Dans 30 ans, on va être encore assis à la même place, je le crois. Puis, est-ce qu'il y a de quoi qui va se produire? Faut combattre ça, là. Faut se dire, un chrétien, c'est en action. L'amour, c'est pas juste en parole, puis en pensée, c'est en action, c'est en pratique. Faut vivre la vie chrétienne, voyez-vous? Parce que quand tu es au niveau juste de croire intellectuellement, ça veut dire que t'avoues qu'il est là, tu le sais qu'il est là, mais là, cette foi-là, là, est juste au niveau des démons. Les démons, ils ont la même croyance que cela. Ils croient que Dieu existe. C'est ce que Jacques nous dit au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons aussi le croient puis ils tremblent. Fait que c'est pas suffisant juste de le savoir puis d'y croire. Parce que les démons aussi, ils savent puis ils croient que Dieu existe puis qu'il n'y en a qu'un seul Dieu. Mais nous, on peut passer aux actes tandis que eux, ils veulent pas obéir à Dieu. C'est la différence. C'est que ceux qui passent aux actes, ils veulent obéir. Ils veulent marcher pour Dieu. Les démons, lui, ils veulent pas. C'est la seule différence. Mais la croyance est au même niveau. Puis le verset 20, Jacques, il nous dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Tout à l'heure, il a dit que la foi sans les œuvres est morte. Puis là, il dit, la foi sans les œuvres, c'est inutile, ça sert à rien. Ça sauve pas. Parce que la première question, il disait, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » La foi peut-elle le sauver? La foi peut-elle le sauver si c'est un gars juste en parole? Puis là, il nous dit que cette foi-là, c'est une foi morte, puis c'est une foi inutile. Il faut revenir à la foi d'Abraham. Dans Jacques, il en parle d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? C'est vrai qu'il avait la foi puis qu'il a fait confiance. Mais il était déclaré juste par ses œuvres, parce que s'il aurait eu la croyance puis la confiance, mais qu'il aurait resté chez eux, puis qu'il n'allait pas visiter le terrain que Dieu voulait donner à sa descendance, bien, il n'aurait pas été déclaré juste. Il n'aurait pas été déclaré juste parce qu'il n'aurait pas obéi à Dieu. Donc, Abraham, il avait la croyance, la confiance, mais il n'a pas passé aux actes. Il dit, Abraham était justifié par ses œuvres. Ses œuvres démontraient sa foi. C'est cette foi-là que Dieu s'attend à ce qu'on ait. Il dit, Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Parce que là, Dieu, il l'avait passé au test. Pour ceux qui ne savent pas, Abraham, là, il avait eu en finalement son enfant. Puis là, Dieu a refait un test encore à Abraham pour voir si vraiment il croyait que sa descendance était pour habiter cette terre-là qui était un terrain, la terre de Canaan, la terre promise. Là, Dieu, il a montré à tes promises, il a été le visiter, il n'avait pas encore son fils. Puis après ça, il a eu son fils, il a commencé à grandir. Il dit, ça y est, la promesse de Dieu est en train de s'accomplir, puis un jour, mes descendants vont habiter cette terre-là. Puis là, Dieu, il demande à Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Là, c'était son fils, c'était pour lui, il était sûr que c'était ce fils-là qui était pour avoir des descendants, qui était pour avoir la terre promise. Puis là, Dieu, il demande de l'offrir en sacrifice. Va sur telle montagne, puis offre-les. Abraham, il a montré à Dieu qu'il croyait, puis ça nous dit dans un passage qu'il croyait même que Dieu était assez puissant pour ressusciter son fils, pour y donner sa descendance. Dieu l'a promis, Dieu il ment pas, puis même si ça prend 20 ans avant d'obtenir la promesse, ou 30 ans, il a attendu 15 ans, mettons, avant d'avoir l'enfant. Là, il l'a, ça fait 5 ans qu'il l'a, puis Dieu lui demande de le tuer. Il est rendu à 104 ans, 105 ans, 106 ans, là. Seigneur, je crois en toi, puis merci de me le demander. Je crois même que tu vas me le ressusciter si jamais tu me demandes de le tuer. Il a été par la foi, puis il a obéi, puis il est arrivé sur l'autel, il a mis son fils là, le bois, tout le kit, le fils, il était ligoté. Puis son fils, il avait dit, « Papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau? » Puis là, Abraham, il a dit... Dieu se chargera de l'agneau. Là-dedans, il y avait une parole prophétique pour l'avenir aussi. Mais la première étape, c'était là, il offrait son sacrifice. Puis là, quand il a élevé son couteau pour garocher, planter son couteau dans son fils, là, Abraham, Dieu l'a empêché. Puis il a dit, « Correct, là, je vois que tu as la foi. » Puis après ça, Abraham, il servait d'abord... Puis il voit un animal pogné d'un broussail. Puis c'est cet animal-là qui est offert en sacrifice. Dieu a pourvu pour répondre à sa promesse, mais Dieu voulait aussi prédire qu'il viendra un agneau qui sera offert en sacrifice pour le pardon des péchés de l'humanité. Dieu pourvoira à l'agneau. Puis c'était pour être Jésus. Mais là-dedans, c'était super beau, cette histoire-là. OK. Au verset 22, il dit, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Fait qu'une foi sans œuvres, c'est une foi imparfaite, morte et inutile. Mais si tu as la foi avec des œuvres, tu as une foi parfaite. C'est cette foi-là qui va faire, qui a fait, puis qui va faire que les gens soient imputés, déclaré juste à cause de l'œuvre de Jésus. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, puis il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça redéclare encore. La même chose pour Rahab la prostituée. Là, il donne deux exemples. Rahab, la prostituée, elle, c'était le peuple d'Israël, il est en train de conquérir la terre promise, puis il arrive dans une ville, puis ils ont espionné la ville avant de la conquérir, puis c'était une ville que tu pouvais pas battre parce que la muraille était trop forte, trop puissante, puis ils ont quand même été explorés, puis ils ont rencontré une prostituée dans cette ville-là, puis... Le peuple, là, c'est un gros peuple. Tout le monde dans la ville savait aussi que le peuple était là, puis qu'il s'en venait. Là. Tout le monde se parlait dans la ville que le peuple d'Israël est dehors. Puis là, il a fallu que les espions soient protégés, parce que là, les soldats cherchaient les espions dans la ville. Il y avait un doute qu'il y avait des espions, puis ils cherchaient. Fait qu'elle, elle les a cachés chez eux, les espions. Puis elle a dit aux espions... Je le sais que l'Éternel, votre Dieu, c'est Dieu, puis que vous allez détruire la ville, puis tout ça. Puis je vous demande de m'épargner, moi et ma famille. Puis là, ils ont dit, rassemble toute ta famille, qu'il soit dans ta maison, mets un fil attaché après ton châssis, Puis quand on va détruire la ville, mais tout le peuple va être averti, le peuple d'Israël, que ceux qui sont dans la maison, que le fil attaché après le châssis, vont être épargnés. Fait que Rahab, elle avait la foi, elle a passé aux actes en protégeant les espions, elle a déclaré sa foi qu'elle croyait, puis elle espérait rejoindre le peuple d'Israël, puis elle a été protégée, puis sa vie était sauve, ainsi que ceux de sa famille. Jacques 2, 26, puis Rahab n'est pas dans descendance messianique, elle, en plus. Dans descendance de ceux que, des arrière parents de Jésus. Jacques 2, 26 nous dit, comme le corps, quand il est sans âme, il est mort. Quand quelqu'un meurt, là, son corps est sorti de lui, il est rendu mort, le corps. Qu'est-ce qui fait que le corps est vivant? C'est parce qu'il y a un être vivant dedans, mais quand tu décèdes, ton corps, ton âme sort, puis ton corps, il est mort. Même si tu t'essayes de réanimer, il n'y a plus d'âme dedans, il est mort. Il dit, de même qu'un corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Un dernier verset. Un critère pour être déclaré disciple de Jésus, c'est Jésus qui le dit dans Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, des Juifs qui avaient cru, des gens qui croyaient. Jésus prêchait, tout le monde le voyait, qu'il faisait des miracles, puis il prêchait la bonne nouvelle. Il ne pouvait pas nier ce qui se passait là. Puis il y a du monde qui y croyait, oui, c'est le Messie qu'on attendait. Jésus a dit aux gens qui croyaient en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Puis là, on pourrait rajouter, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole, c'est juste une théorie, ça? Non. Demeurer dans sa parole, c'est dans la pratique de sa parole. Nous sommes engagés à suivre Jésus. Continuons à marcher avec Jésus. Demeurons dans sa parole, puis c'est là qu'on va être vraiment ses disciples. Jésus a dit ça à du monde qui croyait en lui, là. C'est pas suffisant de croire. Demeure dans ma parole. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne d'avoir des œuvres dans notre foi. Que notre foi soit démontrée par des œuvres. Seigneur, c'est cette foi-là qu'on veut. On ne veut pas juste être des chrétiens en parole, mais on veut être des chrétiens en acte. Démontrer notre foi en toi par notre obéissance. Nous voulons te suivre, nous voulons te servir, marcher à ta suite. On veut prendre notre croix, te suivre. Guide-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Montre-nous les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Que chacun trouve sa place, que tout le monde s'implique. Puis que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.